pour répondre le mieux possible en fait à ce dont ont besoin les musiciens. Et exister encore 20 ans.
Les 20 ans du Calife, donc un reportage d'Emilien Andro. Ce qui est intéressant dans ce reportage, notamment, entre autres, c'est que pour faire le lien avec toutes nos émissions sur la question de la citoyenneté, de la démocratie...
Je savais que tu allais relever
cette dimension. Ouais. Ils insistent eux-mêmes d'ailleurs sur cette dimension militante, citoyenne, qui est un lieu comme ça porté par une association.
Exactement.
Je me disais, bon, il y a bien quelqu'un qui va réagir. Merci, Emilien, pour ce « bien sûr, exactement ». Et je fais une transition, super bonne transition, comme d'habitude, n'est-ce pas ? Tout à l'heure, tu disais, Xavier, que ton album était en téléchargement.
Oui.
Et Hélène, aujourd'hui, a décidé de nous parler de numérique, de data et de notre téléphone portable.
Principalement de nos téléphones.
Principalement des téléphones.
Alors comme vous avez l'habitude, alors pour ceux qui ont repris l'émission avant que je revienne il y a quelques mois, vous ne savez pas encore, mais j'ai l'habitude de poser plein de questions aux gens, aux auditeurs et à ceux qui sont dans le studio. Alors c'est pas pour tester vos connaissances, c'est aussi pour vous faire parler un peu, parce que je trouve ça sympa de vous faire parler. Donc parler des téléphones. Alors déjà, on est 5 en studio, alors combien il y a de téléphones dans le studio ? Alors moi j'ai le mien, 5. J'ai mon smartphone, chacun son smartphone, est-ce qu'il y en a peut-être un deuxième, je sais pas, des téléphones professionnels et autres.
Ah moi j'en ai qu'un.
Un Paul Bismuth.
Un
Bismuth.
Voilà c'est ça.
Alors, donc, 5 personnes, 5 téléphones,
ouais.
Est-ce que c'est dans la moyenne mondiale à votre avis?
Oui, en moyenne mondiale.
Alors combien possèdent
supérieur
inférieur.
Il y a 4,8 milliards de téléphones mobiles dans le monde en 2015 en circulation. Bon, on est combien sur Terre en ce moment?
On est quasiment 7, non?
Ouais, 7, on est presque presque un téléphone par personne.
Combien n'ont pas encore été vendus?
Ah, alors ça c'est une bonne question. En stock, je pense qu'il y en a encore.
On a un petit paquet.
Combien d'utilisateurs de téléphones mobiles en 2010, donc on était 5,4 milliards de personnes qui utilisaient un téléphone. C'est impressionnant. C'est 70% de la population mondiale.
D'accord.
Voilà. Et donc, j'ai lu un article où il racontait plein de chiffres sur ces questions de téléphone et de données et de générer, surtout avec nos téléphones 3G, 4G, etc. et le Wi-Fi. Et donc, très bientôt, en 2020, donc dans 5 ans, il y aura plus d'habitants qui posséderont un téléphone mobile que d'habitants qui auront l'électricité.
Ouais,
ou d'habitants qui auront l'eau, ou une voiture.
Ouais.
Par exemple, il y a 5,3 milliards de personnes qui ont l'électricité.
Ah oui.
Et donc en 2020, il y aura plus d'habitants qui en posséderont.
Quand tu commences à compter 5,3 milliards, ça commence à faire quand même.
Ça fait beaucoup, hein.
Ouais, ça fait un petit paquet. Mais c'est vrai que c'est un outil alors qui nous paraît, nous, maintenant, être quasiment une extension de nous-mêmes ici. Mais même sur le continent africain, je pense au Bénin, où j'ai eu la chance un peu d'aller il y a quelques temps, c'est vrai que dans n'importe quel village au fin fond de la campagne, les gens ont des téléphones portables parce qu'ils en ont une utilité qui est indispensable parce qu'ils ont des applications pour le paiement, pour la santé, et c'est vraiment à la rigueur peut-être plus un outil indispensable que pour nous ici.
Pour écouter parfois. Nord sur Deezer.
Voilà, exactement.
Voilà.
Ouais.
Alors, est-ce qu'on a 5 téléphones, 5 smartphones 4 smartphones.
Ouais.
Ah oui,
et
non,
un téléphone
Emilien
mobile
tourne encore
tout
les
court.
Chiffres.
Emilien est au 20e siècle, mais il va nous rattraper un de ces 4.
Alors, combien de possesseurs qui possèdent de tablettes? Moi, j'ai pas de tablette perso.
Moi, j'en ai une, mais je l'utilise
une
très
tablette,
peu.
Moi, deux tablettes.
Ouais, ma copine en a une, donc.
Donc deux tablettes et demie. Alors, en 2020, donc dans 5 ans, c'est demain. En fait, on utilisera en moyenne 1,5 appareils connectés dans le monde.
Par personne.
Par personne.
D'accord.
Donc, ça veut dire un téléphone, une montre connectée,
un
ordinateur et autres.
Est-ce que t'es un peu geek, toi?
Pas trop, je m'y mets, en fait. J'étais, je sais pas, c'est...
Tu verrais l'état du téléphone, Rebecca. C'est pas encore ça. Hein.
je m'y mets progressivement.
Ouais, t'es sur Twitter. On peut te retrouver sur Twitter. Alors si vous voulez retrouver et
ouais,
suivre,
ouais. Là on est obligé là, Twitter.
C'est bah oui, indispensable aujourd'hui. Son nom c'est @NouveauNord.
Oui.
Sur Instagram aussi,
pareil.
On peut le suivre. Pareil @NouveauNord. Donc voilà, vous pouvez le suivre. Et puis aussi une page Facebook, évidemment.
Bah c'est NouveauNord aussi.
Voilà, coup, bah NouveauNord. Donc
NouveauNord pour.
Pour être cohérent et qu'on te retrouve, donc voilà, parfaitement installé sur les réseaux sociaux.
Donc 1,5 appareils connectés, mais ça c'est la moyenne mondiale. Pour les Européens, c'est un peu plus. On est à
2,8.
Donc on aura tous un ordi, une tablette, une montre, j'en sais rien.
Et Emilien fait chuter la moyenne.
Oh, Emilien, t'abuses.
Mais alors, est-ce qu'il y a des montres connectées dans la place?
Moi non. Non. Enfin, j'en ai une de sport, mais pas une montre connectée.
C'est pas une montre connectée.
Ouais,
elle transfère pas les données.
Si, sur l'application, elle transfère quand même sur le téléphone et l'ordi en direct.
Ah oui, donc c'est connecté quand même. Ouais. Et donc en 2020, il y aura 11,6 milliards d'objets communicants.
Et les hamsters aussi.
Téléphone, tablette, montre.
Les hamsters aussi.
Ils pourront vérifier s'ils ont fait assez de tours dans la journée.
Un hamster. Je connaissais Napster à l'époque, mais
tu pourras télécharger.
Télécharger.
Mais n'empêche,
avec un port USB en
fait. Il y a eu des applis là où, pour avoir ces petits animaux de compagnie là où fallait leur donner à manger et tout.
Ah oui,
tout
ça, ça marche super bien ça. Ouais. Quand tu veux pas avoir de hamster.
Voilà, c'est ça.
Donc du coup, nos smartphones hyper connectés, machin, ça génère vachement de données. Et donc, alors petit point, données, combien? Alors, donc toujours cette étude de Cisco qui essaye d'étudier les trafics Internet et toutes ces données entre aujourd'hui et demain. En fait, bon alors, question. Est-ce que vous savez combien de données vous utilisez par mois avec vos smartphones, à peu près?
Alors, qu'est-ce qu'on entend par données?
Par exemple, on a tous un forfait genre 3G, 3 gigas, 4 gigas, 20 gigas. 13 gigas. Au hasard, complètement.
J'en ai aucune idée, parce que je me rends même pas compte.
Ça, c'est les données uniquement avec le 3G, 4G, mais après, aussi ce qu'on consomme avec le Wi-Fi, quand on se connecte en Wi-Fi de chez soi. Et donc, en moyenne, un Français lambda consomme en moyenne 1 giga octet de données par mois.
D'accord. Bon, après, je me rends pas du tout.
On se rend pas compte, hein.
Tu vois le panier, c'est à peu près...
Voilà, c'est assez... voilà. Bon, bref, ça fait quand même beaucoup, si on multiplie ça par le nombre de personnes.
Et tout autant de données qui nous permettent d'être tracées.
D'être tracées, voilà, etc. Et en 2020, ça sera 4,5 gigas. Vous voyez l'explosion exponentielle de la consommation de données.
Ouais.
Et 6 gigas pour les Américains.
Et alors, le travail, c'est la course opposée, le travail.
Ah oui, on travaille moins. Ouais. Alors, ça dépend. Si on travaille en étant connecté de chez soi, peut-être.
Ouais.
On disait qu'il n'y avait plus de travail. Hein.
Il n'y a plus de travail. Ah,
la fin du travail. Ouais. Ça sera le thème de la chronique d'Emmanuel.
Il n'y a pas les chiffres du travail connecté, du coup.
Non, j'ai pas. Voilà. Et donc, ça fait l'équivalent de 36 millions de gigas. Voilà, ça en fait beaucoup, beaucoup de disques durs. Et je vais vous faire une comparaison, en fait, en termes de données après, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte en volume. En surfant sur nos smartphones, tous les connectés de la planète ont généré chaque mois environ 3,7 hexaoctets de données. Ce qui fait à peu près un hexa... Enfin, je ne vais pas y arriver. C'est dur, en fait, ces données. Alors, je vous réponds.
En équivalent
de... En fait,
on
a généré 3,7 hexaoctets. Vous retenez 3,7 hexaoctets. Et un hexaoctet, c'est 250 millions de DVD, à peu près,
C'est
en volume.
Ah. Et ça fait combien de kilos?
À combien de kilos, alors là?
Avec les bonus ou sans les bonus?
Blu-ray ou pas, j'en sais rien. Voilà, ça fait énormément de données, de volume. Et donc,
alors, quel est l'équivalent en données du nouvel EP de Nord?
Ah, alors ça, c'est une bonne question. Alors déjà, combien de vues sur YouTube? Combien de
Elle va nous faire un petit calcul bien pensé.
C'est ça, il faut multiplier par 2, diviser par 128.
Exactement. Voilà.
Et appliquer la racine carrée.
C'est normal que ça fasse longtemps qu'elle soit pas venue, Hélène. T'imagines le boulot pour préparer la chronique?
Alors, je peux vous donner l'article. Hein. En fait, j'ai juste fait des copier-coller de l'article. Mais je l'ai lu quand même 3 fois pour à peu près savoir de quoi je parlais.
Wow.
Donc voilà. Bon, alors il faut savoir que comme Emilien fait baisser la moyenne en volume de données data sur les mobiles, il faut savoir que c'est 20% des consommateurs qui réalisent 60% du trafic.
Ouais, bah c'est toujours pareil.
C'est voilà. quoi, je comprends.
Donc
pas.
20%, en fait c'est 20% des gens connectés qui vont faire 60% du trafic. Donc ça veut dire qu'en fait il y a certains qui vont consommer énormément de data, qui vont être tout le temps sur leur téléphone et d'autres moins.
C'est un peu le principe du 1% et des 99%.
Rebecca, t'es une grosse consommatrice.
Moi, j'en bouffe matin et soir. Je suis traversée toute ma vie par les ondes Wi-Fi. J'adore ça. Je ne peux plus vivre sans sentir les... avoir les neurones qui tressaillent de Wi-Fi, de données, etc. Catastrophique. Eh ben merci pour ces petits...
J'en ai d'autres, je peux vous raconter la suite s'il y a du reste du temps. On peut s'arrêter là, il n'y a pas de problème.
Alors, passons des données numériques aux données, aux choses, aux livres. Voilà, j'avais envie que tu nous parles un peu de ta bibliothèque, Xavier.
Oh là.
Voilà. Qu'est-ce qu'on on trouve dans ta bibliothèque préférée? Sans doute un peu de poésie, non?
Beaucoup de Raymond Queneau.
Oui.
Fait. Ouais, je me suis pas pris d'affection pour cet auteur quand j'étais au Havre. Et je crois que j'ai quasiment tout lu d'un seul coup, pour moi, c'est même j'en lis assez régulièrement.
Très bien. Ah bah tiens, je vais te lire un petit extrait de Raymond Queneau. Tu vas me dire si ce bout de poème te parle. Je fais parfois le rêve étrange et pénétrant d'une rue en étain, blanchâtre et maternelle. L'un et l'autre trottoir palpitent comme une aile, tandis que sa chaussée a tout son poids d'étang.
Il faut que je vienne dans...
Bah oui, évidemment. Non. C'est un extrait du poème Rue Paul Verlaine dans le recueil Courir les rues. Ce petit extrait m'a fait penser à toi parce que voilà, il y avait le rêve, l'étrange, la rue. Ouais. Et j'imaginais un peu un clip nord courant les rues et puis vibrant dans l'étrangeté de la pénombre. Pourquoi pas, Emmanuel?
Sinon, Xavier, t'es né au Havre?
Non.
Ah non, mince.
Non.
Parce qu'il y a un poème de Raymond
Alors
Queneau.
Alors tu sors.
Il y a un poème de Raymond Queneau, je naquis au Havre, et il donne la date et tout.
Bah ouais. Je savais qu'il y avait des atomes.
Ouais, Raymond Queneau était havrais.
Ah oui, c'est.
Ouais. Bah ouais.
Et du coup, moi j'avais fait une chanson aussi à partir de je crois que c'était Fendre les flots. Et ça s'appelait Aller chercher au fond des mers à l'époque. J'avais fait ça avec mon groupe, la Dame Fortune. Et j'avais fait du cut-up à l'époque, c'était la mode du cut-up, Cadio, tout ça. Et puis, du coup, j'avais tout relu. Et en fait, il y a plein de fragments de Fendre les flots dans cette chanson-là.
D'accord.
Voilà. Mais cette chanson qui est introuvable nulle part, même pas sur.
C'est quoi un cut-up?
En fait,
je suis désolée.
C'est des séquences. En fait, c'est comme des samples de mots, si tu préfères. D'accord. En fait, okay. En gros, tu reprenais des bouts et tu refaisais des poèmes avec. Mais comme Raymond Queneau, lui, il était plutôt friand de ce genre de truc. Enfin, à l'époque, avec l'Oulipo, il faisait plein de jeux, en fait. Enfin, ça existe encore maintenant, l'Oulipo. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui pratiquent, mais voilà, lui, c'était vraiment l'instigateur de ce truc-là, en fait.
Et dans ta CD-tech, qu'est-ce qu'on trouverait, dis-nous?
Dans ma CD, pas mal de Leonard Cohen. J'aime bien écouter ça les soirs de doute. Et puis même le soir d'été, c'est bien.
Elle est belle.
Et du coup, ouais, et puis il y a quoi? Je sais pas, il y a de la chanson française, il y a pas mal de Brassens. Mais il n'y avait que des vieux trucs, hein, finalement, dans ma discothèque idéale.
Je crois que t'aimes bien aussi Françoise Breu.
Oui, Françoise Breu, je sais pas comment on dit, Françoise Breu. Breu.
Qu'on a reçu d'ailleurs dans ton livre, Emmanuel.
Moi, j'avais trouvé son album, le premier, je crois que c'est 20 à 30 000 jours.
C'est pas le premier,
mais en fait, moi, je suis tombé là-dessus et la chanson 20 à 30 000 jours, j'ai eu du mal à m'en remettre.
Ouais, il est très beau. C'est pour Hélène, c'est les chiffres, c'est la durée de vie, c'est l'espérance de vie de quelqu'un de 20 à 30 000 jours. Et c'est vrai que l'album était très, très beau. Et le dernier est absolument magnifique, le dernier album.
Ouais. Et tu as joué à un concert, je crois, tu étais en première partie de François Lourdes.
J'ai fait la première partie aux trois pièces l'année dernière. Ouais. C'était un beau souvenir aussi. C'était une belle soirée. En plus, elle était en duo, je crois, c'était un duo, c'était vraiment une belle soirée.
Ouais. Bah, et pour continuer, je te propose, Xavier, qu'on écoute sans doute un morceau qui doit être aussi dans ta bibliothèque musicale. Tu nous diras juste après ce qu'on écoute.
Ouais, ok, ça marche, allons-y.
Does it mean to face desire so sadly. What you pay the empty well? Residual images hover above. Oh, I'm just a dog with sheep for your love. But you know every man, every place that you be. You turn me on, then you turn on me. This is all commotion. This is all commotion. This is all commotion. All this is all commotion. It's going down. 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 Oh, it's going down. It's going down. It's going down.
Xavier, dis-nous, c'est quoi ce groupe ?
Alors, je crois que c'est Timber Timber.
Ouais.
Voilà. Et le titre, c'est The Locomotion. This Locomotion, sur le dernier album, qui s'appelle Hot Dreams, qui est très bien.
Ouais.
Super, justement, un petit compromis entre le... Je sais pas, un truc un peu très blues, vieux, et un truc un peu moderne, j'arrive pas à... Parce qu'en même temps, il a utilisé, pour cet album-là, plein d'instruments vintage. Il est allé, je sais plus, en Californie, l'enregistrer. Et... il a vraiment enregistré un peu à l'ancienne et tout, mais il y a quand même, pour moi, une sorte de modernité derrière tout ça qui est super intéressante. Et puis, moi, je me fais pas mal d'images de... C'est assez comme, je sais pas, des images de films, trucs de poussière.
Oui,
de,
c'est assez vrai, ouais.
De sueur, mm-hmm. de je sais pas, il y a un truc bizarre qui... Enfin, il y a vraiment une sorte de voyage, en fait. Mm-hmm. Ça fait vraiment... Puis à chaque album, ça me fait un peu ça. Donc ça fait au moins soit 5-6 ans que j'écoute Timber Timber. Je suis jamais déçu par les albums. Enfin, à chaque fois, je trouve qu'il arrive toujours à retrouver quelque chose d'autre, un truc mm-hmm. qui va me plaire, en fait.
Bah moi, je vais pour moi, j'avoue, hein, c'est une découverte. Je ne connaissais pas ni ce groupe, ni ce morceau, mais une très, très belle découverte. Donc, je vais aller découvrir un peu plus ce groupe. Emmanuel, je crois que toi, tu connaissais.
Oui.
Bah oui, comme d'hab, toi, t'es le mec branché qui
mais
connaît
tout,
quoi.
Non, c'est tout.
Il est hyper connecté, c'est pour ça.
Voilà,
ouais, moi,
c'est
je suis
ça.
Hyper connecté.
Et donc, tu es très connecté. Et chaque quinzaine, tu nous délivres une chronique que souvent on retrouve d'ailleurs sur ton site, qui s'appelle À peine perdu. Et ce soir, quelle chronique as-tu envie de partager avec nous, Emmanuel?
Ben, comme d'habitude, quelque chose d'assez drôle.
Ouais, bah oui. Attention, Xavier, tu vas être mort de rire, quoi.
Qui donne de l'entrain
et dans le thème.
Qui
aussi.
Donne de l'entrain à tout le monde et.
Ouais.
Et comme dit Emilien, toujours dans le thème, hein, ouais. Sauf que je reste dans le thème social qui était, j'avais cru comprendre, celui de l'année, ce qui,
oui.
Et qui marche très bien avec toi, t'inquiète pas.
Alors, vu que ça va être très très drôle,
tu n'en es pas exclu.
Vu que ça va être très très drôle, je préfère te le dire tout de suite, Xavier, tu es le premier à réagir à cette chronique juste après. Donc reprends-toi du fou rire, de tout ce qui se passe dans ton esprit, et on écoute.
Alors ça s'appelle Les Enfants. Mais c'est pas drôle du tout, hein, comme d'hab.
Non, mais fallait pas le dire, même pour que
c'est dramatique. C'est dramatique. Les enfants sont dans les rues, près de leur père, fouillant poubelles et cartons, pour y trouver quelques richesses. Délaissés, vieux restes, objets abandonnés, morceaux de joie, rêves ranimés. Et les enfants sont dans les rues près de leur mère, tendant le bras, gobelet de cartons, dans la main tenue, à quémander quelques pièces pour survivre, encore un jour de plus. Les enfants n'ont ni avenir ni rêve, ni amis, ni lieu, mais derrière les façades, au pied desquelles ils s'assoient, ils imaginent les chambres, les cuisines, les salons et la vie qu'ils s'y passent. Pour d'autres qu'eux, les enfants se perdent dans ces lieux et l'on passe devant eux, sans les voir. Ni ces femmes assises sur des cartons, des cajots, dont on perçoit à peine les yeux. Les enfants sourient dans leurs habits couleurs, mais ce n'est pas de voir le va-et-vient incessant des gens gris devant eux. Les enfants sourient peut-être, possible, en pensant que la ville est à eux, le mur, la façade, le trottoir, la chaussée, la place et le jardin, tout un espace déployé, qu'ils balaient d'un geste de main, sans autre idée qu'un instant, le monde sien. Mon père n'a jamais fouillé une poubelle, ni ma mère ne s'est assise sur un seuil, demandant « s'il vous plaît, quelque chose pour manger ». Ils travaillaient chaque jour pour payer la maison, les tapis persans, la télévision, les fauteuils Louis XVI. Chaque jour, ils œuvraient vers plus de soumission, d'emprunt, crédit, fidélité, abonnement, étaient leurs mots. Mots, s'écrit MAUX. Les règles changent peu, les joueurs parfois, mais qui toujours perdent plus qu'ils ne misent et ne peuvent gagner. Les enfants sont sacrifiés pour que perdurent quelques privilèges et mensonges. Les enfants sont sacrifiés pour nos démons.
Merci Emmanuel, Xavier.
Et oui, j'ai envie de dire « ainsi va la vie ».
Ouais, non mais c'est...
Non mais oui, c'est un bel espoir pour la jeunesse. Un beau message. Merci beaucoup.
Et voilà. Hein.
Non, mais c'est... En fait, c'était surtout sur les enfants allant maintenant tous les jours à Paris. C'est plutôt sur les enfants qui sont dans la rue... issus de, je ne veux pas employer moi le terme, mais donc je ne l'emploierai pas, mais les populations qui sont déplacées, qu'on finalement à la fin on stigmatise derrière un nom que je trouve absolument terrible, et on, ces enfants-là vivent toute la journée vraiment sur des matelas à 5 mètres de leurs parents. C'est vrai que je vois régulièrement les pères faire les poubelles, même très tôt le matin avec les enfants derrière, et voilà, je trouve ça totalement effrayant en effet. Ouais.
Et
effrayant.
C'est l'occasion un peu de parler de ton travail, alors pas ton métier, mais ton travail d'écriture et aussi de photographie, puisque si on te suit sur Twitter, c'est @eudelabranche. Tu postes énormément de photos prises comme ça en marchant. Tu marches beaucoup dans les villes à Paris où tu travailles, à Rouen un peu avant, au Havre, enfin partout où tu passes. Et c'est vrai que tu nous montres la ville qu'on ne voit pas. Alors pas forcément les gens, mais c'est les lieux, les façades, les trottoirs, et c'est cette ville qu'on oublie de regarder finalement, et par ton texte là sur ces enfants, ben voilà, qu'on peut-être inconsciemment ou consciemment on essaye de ne plus voir, c'est aussi nous alerter sur toute l'humanité des villes qu'on oublie.
En fait, il y a quelques années, j'étais parti de Paris parce que j'en pouvais plus de cette société qui t'oblige à pas faire attention aux autres. Mmh. Et pour d'autres raisons, j'y suis retourné et je me retrouve dans le même état, quoi. C'est assez épouvantable. Après, c'est vrai que la série, une série que j'aime bien qui s'appelle Fermé. C'est une série en fait qui n'est pas du tout nostalgique, et un jour j'ai vu discuter de ça avec quelqu'un, et c'est vrai que cette série-là n'est pas nostalgique. En fait, je photographie la plupart du temps les façades des boutiques fermées. Fermé pas parce qu'on est dimanche, mais fermé parce qu'elles ont disparu, et abandonné. Il reste quelque chose sur cette façade de l'ancienne activité de l'entreprise ou de la boutique. Et en fait, c'est cette question-là qui m'intéresse, moi, c'est plus la question de l'histoire et donc de la trace. En fait, j'ai horreur qu'on efface tout, quoi. Voilà, je voudrais qu'on garde toujours très présent tout ce qui nous a marqué.
Et puis voilà. Je trouve que tu remets beaucoup d'émotions finalement dans la traversée d'une ville ou d'un lieu. Toi, Xavier, l'émotion qu'on retrouve dans tes textes, elle est plus liée à de la relation à la femme, aux amis, à la jeunesse. Il y a aussi tout ça qui est au cœur de ton travail d'écriture.
Oui, complètement. Enfin, oui, c'est plutôt les failles qui existent entre tout ça, en fait, entre les gens, finalement, comme on essaye de vivre ensemble.
Ouais.
Et généralement, il y a souvent des failles.
Ouais, bah ouais.
C'est ce qui m'intéresse, finalement. Mm-hmm. Le moment où ça déconne, peut-être.
Ouais. Ouais. Alors tout ça, ce sera sans doute une nouvelle page qui va s'écrire, tu le disais tout à l'heure, hein, tu es en train de retrouver des espaces pour écrire, dessiner, retrouver, retrouver la plume. Donc à la rentrée 2016 peut-être un nouvel album en préparation.
Là je suis en plein dedans et il faudrait que ça sorte à la rentrée. Ouais.
D'accord.
Donc, je suis en train d'enregistrer et puis aussi de finaliser les textes là, qui me manquent.
Ouais.
Pour l'instant. Bon. Puis j'essaye aussi d'écrire. J'aimerais bien avoir un peu d'avance. Donc j'essaye d'écrire. Parce que ouais, là, j'ai, on va dire 12 titres. Mais j'aimerais bien en avoir 10 autres. Donc voilà, essayer d'avoir le choix. En fait.
Oui, ouais, pour pouvoir concocter la recette.
Ouais, j'ai peur d'être à court. Enfin, c'est bizarre, mais je pense qu'on est un petit peu tous pareils. Je sais pas,
ouais, ou c'est peut-être aussi.
C'est la société qui nous conditionne comme ça.
Ou peut-être aussi la dure condition d'artiste, du poète. Hein, c'est cet albatros qui a besoin de retrouver l'élan.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, je réfléchis en même temps. Mais j'essaie de me mettre à la place d'un albatros.
Emmanuel.
Et sans indiscrétion, t'as un objectif, c'est-à-dire qu'on te donne ta maison de disques, te donne une règle avec un nombre de disques à faire sur une durée donnée ou
en fait, je l'ai pas encore ce truc-là.
Tu l'as pas encore.
Je sais qu'on a commencé à m'en parler, mais j'ai jamais eu de contraintes là-dessus.
D'accord.
On m'a commencé à me dire les chiffres de vente. Enfin, tu vois, le truc que je m'étais jamais préoccupé. Et puis là, on m'a dit pour le EP, c'est super, ça fonctionne bien, on en a vendu tant. Et voilà, pour eux, c'était aussi un truc à mettre en avant.
D'accord.
Mais moi, c'était pas. Je débarque peut-être. Mais j'apprends le métier peut-être aussi.
Ouais, toutes les contraintes de la production.
Il y en aura d'autres aussi, bien sûr, à la sortie d'un album. Ouais. Puis oui, ce sera encore d'autres enjeux en fait.
Faudra qu'on te retrouve à la rentrée pour découvrir les nouveaux titres, nouvelles inspirations.
À la rentrée, ça va s'enchaîner un peu. L'idéal, ça serait que je puisse faire une résidence justement autour de ces nouveaux titres-là en septembre pour espérer. On est en train de chercher des dates là pour à partir d'octobre.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, peut-être quelques dates qui vont s'enchaîner.
Très bien. Donc, une très belle année à venir pour Nord. Xavier Feugret, notre invité, jusqu'à 21h dans ton libre. Il est déjà quasiment l'heure de se quitter. Alors, on va se dire au revoir maintenant parce que j'aimerais qu'on se quitte en musique avec un morceau que tu aimes beaucoup, Xavier, qui est un morceau de Leonard Cohen. Tu en parlais tout à l'heure. Un morceau qui s'appelle Woo by Fire.
Ouais.
Donc, avant de l'écouter, je voulais te remercier d'avoir été avec nous dans
c'est
ce ton libre.
Merci beaucoup.
Merci.
C'est chouette.
Merci Emmanuel, Hélène et Emilien. Et puis, donc on se retrouve dans une quinzaine de jours pour un nouveau Ton Libre. Donc, on va se quitter avec Leonard Cohen. Et puis, d'ici nos retrouvailles, soyons un peu fous, continuons de rêver.
Sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay,
and who shall I say is calling?
Lonely slip, who by barbiturate, who in these realms above, who by something blood, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? Who by accident, who in solitude,
mirrorless mirror, who by his latest command, who by his own hand, who in mortal chains